Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
C'est un passage de témoin qui sent le pétrole. Le président de la COP28 de Dubaï, PDG d'un grand groupe pétrolier, a transmis le marteau qui scelle les grandes décisions à son successeur. Le ministre de l'écologie et des ressources naturelles de l'Azerbaïdjan, pays gorgé d'hydrocarbures, a ouvert la COP29 hier à Bakou.
La COP29 est un moment de vérité pour l'accord de Paris. Elle mettra à l'épreuve notre engagement envers le système climatique multilatéral.
Cette nouvelle conférence sur le climat a pour objectif de s'accorder sur le financement de la transition verte des pays en voie de développement. Ils réclament 1 000 milliards par an, alors que 2024 est en passe de devenir l'année la plus chaude jamais observée. Les ONG présentes à Bakou appellent à l'action, mais ne cachent pas leurs inquiétudes. Le regard tourné vers Washington.
Il faut s'attendre à ce qu'un négationniste du climat entre à la Maison-Blanche. La réélection de Trump ne peut en aucun cas servir d'excuse aux autres nations pour réduire l'ambition nécessaire.
Donald Trump risque-t-il de faire des émules chez les climato-sceptiques? Le nouveau président américain a promis de se retirer une nouvelle fois de l'accord de Paris sur le climat. Le réchauffement climatique, il n'y croit pas.
Global warming and a lot of it's a hoax.
We can't sacrifice our country for the sake of bad vision.
First, we're going to drill, baby, drill.
The ocean's going to rise in 400 years, an eighth of an inch, and you'll have more seafront property, right, if that happens.
Alors Donald Trump va-t-il définitivement enterrer la possibilité de contenir le réchauffement à 1,5 degré? Le camp des climato-sceptiques va-t-il freiner le développement des énergies vertes? La COP29 parviendra-t-elle face à l'urgence climatique à débloquer des financements pour éviter que l'humanité en paye le prix?
D'autres invités pour ce débat, François Jemaine, bonsoir. Vous êtes professeur à HEC, vous êtes l'auteur principal du 6e rapport du GIEC et vous êtes président du conseil scientifique pour la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et pour vous, l'élection de Trump, Donald Trump, donc, est un bilan carbone qui va se chiffrer en milliards de tonnes de gaz à effet de serre supplémentaires avec la relance des forages pétroliers et le risque d'une sortie de l'accord de Paris qui pourrait donner des idées à d'autres pays. À côté de vous, Martial Zebelinga, bonsoir, économiste, sociologue. Vous êtes expert associé au comité scientifique international de l'UNESCO pour l'histoire générale de l'Afrique. Et selon vous, ce n'est pas tant les discours climato-sceptiques qui séduisent que l'impression qu'on demande à ceux qui en sont le moins responsables de payer la facture du dérèglement climatique. Et à côté de vous, Lola Vallejo, bonsoir madame, conseillère spéciale climat de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Selon vous, si les Américains se retirent de l'accord de Paris, le rôle de la Chine et de l'Europe sera majeur pour rassurer et stabiliser la communauté internationale, alors qu'il faut trouver 1 000 milliards de dollars par an pour faire face à la crise climatique. Et on démarre avec un sondage à propos justement du climato-scepticisme.
Oui. Selon l'association écologiste Parlons Climat, le nombre de climato-sceptiques en France a fait un bond impressionnant ces trois dernières années. En 2023, entre 35 et 43% des sondés mettaient en doute l'existence du changement climatique ou l'impact des activités humaines comme cause principale de ce changement, contre 20 à 32%, on va le voir, en 2020. Et pour parvenir à ces fourchettes, eh bien, l'association se fonde sur des sondages Ipsos ou de l'ADEME, l'Agence publique de la transition écologique. François Jemaine, le climato-scepticisme ne touche pas seulement les États-Unis, ça vient jusqu'en Europe, ça vient jusqu'en France, très fortement.
D'abord, tout ce qui touche les États-Unis finit par nous toucher à notre tour. Et puis, je suis assez d'accord avec cette idée. En fait, derrière ce qu'on va appeler climato-scepticisme, il y a évidemment ceux dont on vient de parler qui s'enferment dans une sorte de bulle de réalité alternative. Il y a aussi tous ceux qui vont mettre en cause les politiques mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique, qui vont les trouver injustes, qui vont trouver qu'elles reposent trop sur les épaules des citoyens et des individus, qui vont parfois trouver qu'elles sont associées à toute une série d'autres idées de lutte des classes, d'anticapitalisme, de féminisme, dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas, et donc ça va créer un mouvement de rejet en vrac à la fois des politiques mais aussi de la science. Et puis il y a quand même ce gros problème qui tient à la physique du climat, c'est que quoi que nous fassions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous n'allons pas voir les dividendes climatiques immédiatement. Les températures ne se stabiliseront qu'à partir du moment où on atteindra la neutralité carbone, c'est-à-dire en 2050 au plus tôt. Et donc on va devoir baisser nos émissions, ce qui est perçu de plus en plus comme une contrainte. et on a l'impression qu'on n'en voit pas vraiment les bénéfices. Et ça, je crois que c'est très compliqué.
Ouais. Martial Zebelinga, est-ce qu'on ne charge pas trop la barque de Trump? Parce que finalement, il n'y a pas que lui qui fait qu'il y a de plus de climato-sceptiques. On le voit aussi en France, alors qu'on fait beaucoup quand même d'efforts pour lutter contre le changement climatique
ici. Je pense que oui, vous avez raison. Mon point de vue, il y a un peu, faut peut-être détrumpiser cette question, puisque déjà les États-Unis sont sur une trajectoire longue qui n'est pas nécessairement la plus propre. Hein. Ça reste le premier producteur aujourd'hui de pétrole.
Deuxième émetteur,
exactement, de gaz à effet de serre. Donc on ne peut pas non plus tout remettre sur Trump. Par ailleurs, il y a différentes perceptions et différentes réalités dans le vécu des atteintes environnementales. Et ces réalités ne sont pas toutes exprimées avec la même force et de la même façon dans la négociation internationale. Par exemple, vous avez aujourd'hui, je trouve, une absence des populations autochtones qui prennent de plein pied,
les
de plein fouet.
Premiers, les peuples premiers, les peuples racines,
ce qu'on appelle les First Nations, etc., qui sont en général qui subissent la déforestation. Vous avez les peuples qui subissent la pollution directe, la pollution, par exemple, à l'uranium. Je pense en Afrique centrale, au Gabon ou en Afrique de l'Ouest, au Mali, où vous avez des gens qui n'ont pas l'impression que ces débats-là, finalement, arrive à les concerner. Vous avez au Malawi des populations qui sont très atteintes d'albinisme, qui souffrent énormément. Il y a une proportion importante d'albinos dans ce pays-là. Et le réchauffement climatique porte énormément atteinte à leurs conditions sanitaires, parce que ça crée des cancers de la peau, etc. Mmh. Et donc, quand on a des discours qui sont finalement très globaux, très généreux sur le réchauffement climatique, mais qu'on ne voit pas concrètement ces populations-là représentées, alors qu'elles touchent, elles sont très touchées, on a l'impression qu'on est dans une forme d'injustice climatique et environnementale.
Lola Valéjo, est-ce que finalement, il faut se dire clairement que limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, c'est chose qui est derrière nous. On n'y arrivera pas. C'est ça aussi le premier constat de cette COP29 ?
Alors déjà, pour une année précise, il y a pas mal de scientifiques qui disent qu'on l'a déjà dépassé pour cette année, sauf qu'on ne peut faire ce constat que sur le temps long. Donc pour l'instant, il est un peu trop tôt encore pour baisser les bras pour cet objectif le plus ambitieux. Mais je dirais que le plus important, c'est pas tant est-ce qu'on va tenir ce seuil-là, comme tous les seuils, il est aussi arbitraire, il a été choisi.
Pas plus de 1,5 degré.
On a deux objectifs dans l'accord de Paris, c'est limiter à bien en dessous de 2 degrés et 1,5 degré. Donc je comprends ce que raconte Donald Trump, on peut se demander à quoi sert un dixième de degré. Je pense que le plus important à retenir, c'est qu'il faut faire le maximum d'efforts possibles, parce qu'il y a des conséquences très concrètes qui ensuite sont ressentis par beaucoup de gens à toutes les échelles. Donc les efforts maximum, c'est vraiment ça l'ambition. Rappelez quand même que les États-Unis, même s'ils sont critiquables, tout comme l'Europe, ils sont quand même dans une trajectoire de perte de réduction d'émissions depuis 2005 aux États-Unis, depuis 90 en Europe. La question, c'est le rythme. Et c'est une bataille que le changement climatique, si on perd cette bataille, c'est sans doute parce qu'on ne va pas assez vite et pas tant parce qu'on n'a pas les bons objectifs.
On va pas assez vite ?
On va passer vite, clairement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les pays industrialisés sont sur une trajectoire de baisse de leurs émissions. Mais que d'abord, la baisse des émissions dans les pays industrialisés, aujourd'hui, reste compensée par la hausse des émissions dans les économies émergentes et dans les pays en développement. Et on comprend évidemment pourquoi. Et surtout, je crois qu'une erreur qu'on commet, c'est de penser qu'on va pouvoir garder le même rythme chaque année. Et donc, on se complaît un peu dans une sorte de satisfaction en disant on a fait moins 6%, moins 8%, on va tenir l'objectif si on tient ce rythme chaque année. Sauf que tous les gens qui ont déjà couru un marathon, et je n'en fais pas partie, savent que les premiers kilomètres sont plus faciles à courir que les derniers.
Alors, on va y revenir, mais une archive pour se souvenir d'un moment marquant lors du premier mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, 1er juin 2017, le tout nouveau président depuis quelques mois, tient sa promesse de campagne. Regardez.
As of today, the United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord and the draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country.
Et donc, il devrait à nouveau quitter l'accord de Paris, Donald Trump. Martial Zebelinga, est-ce qu'il peut faire des émules ? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Ça n'avait pas été le cas la dernière fois. Est-ce que là, il y a d'autres pays, l'Argentine, on parle de la Russie, de son ami allié, la Hongrie ?
Je n'ai pas envie d'insister sur Trump, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui se passent dans le monde. Par exemple, là, on sort du sommet des BRICS+, qui sont une force émergente, avec, dans laquelle on a des pays
Brésil,
qui sont…
Brésil, Russie, Inde, Chine.
Exactement, Inde, Chine, avec leurs partenaires aujourd'hui, une trentaine de partenaires, voilà, et pas des moindres. Et dans ce groupe-là, on trouve des pays qui sont à la fois très avancés dans les énergies renouvelables, mais en même temps qui sont des pays extractifs et qui polluent. Et je pense que il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe de ce côté-là. Ils ont une banque, la nouvelle banque de développement, qui peut financer également la décarbonation. Mmh. Et je crois que mettre tout sur Donald Trump ou ce qui se passe aux États-Unis, c'est un petit peu, on est un peu dans l'occidentalocentrisme. Mmh. Il faudrait essayer d'en sortir, parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont amenés à faire l'histoire, y compris dans ce domaine-là. Mmh. Et j'insiste, je termine là-dessus, y compris dans la rédaction même des règles du jeu, à savoir décider que le plus important sera le réchauffement climatique, cette focale-là n'est peut-être pas nécessairement
la bonne.
Je ne sais pas, il y a par exemple, dans le vécu des gens, vous avez si vous allez aux Antilles aujourd'hui, ils vous parleront du chlordécone, parce que 90% de la population a été polluée par des pesticides. Et avec des entrées comme celle-là, on fait intervenir des acteurs qui sont cachés, les entreprises, les grandes entreprises qui polluent.
Sur cette COP29-là, on dit qu'en fait c'est une COP intermédiaire, que celle qui est importante c'est celle de l'année prochaine au Brésil. Mais en même temps, alors pourquoi en tenir? Il y a quand même des dizaines de milliers de délégués qui sont là-bas. Il y a quand même un objectif important, c'est l'aide aux pays en voie de développement. C'est ça qu'on nous a vendu.
Alors c'est effectivement une COP qui est très importante, parce que c'est une COP où on va parler de finances. Peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit, il n'y a pas que le climat dans la vie, et c'est pour ça qu'on a le cadre des objectifs de développement durable qui est très important, et c'est l'idée qu'on doit se donner des objectifs, pas juste sur le climat, mais sur l'ensemble de ce qui fait le bien-être d'une population. Donc ça, c'est important. Lutte contre la biodiversité, pour la préservation de la biodiversité, c'est aussi important que la lutte contre le changement climatique. Et là, cette COP-ci, elle est très importante parce qu'on va parler de finances. Et on le sait, la finance, c'est aussi le moyen de faire vivre des engagements très clairs qu'on s'est donnés collectivement l'année dernière pour transitionner vers l'abandon des fossiles, pour tripler la capacité de renouvelables au niveau mondial et pour doubler le rythme d'efficacité énergétique. Ça, c'est des objectifs très concrets qui essayent d'aller un petit peu dans le détail de ce qui doit changer au niveau sectoriel pour l'ensemble des pays du monde. Donc, c'est des jalons qu'on arrivera à tenir que si on a un pacte de solidarité avec les pays en développement. Et donc là, l'enjeu, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur un nouvel objectif. Quand même, c'est important que les États-Unis jouent un rôle. Et ça va être quand même une question majeure, le fait que le plus gros pays en termes d'économie et de deuxième émetteur mondial n'en fasse pas partie.
Et en même temps, il n'y a pas que Trump qui n'y est pas. Biden, bien sûr, le président américain n'y est pas. Macron ne va pas y aller. Van der Leyen n'y est pas. Enfin, est-ce que ça, c'est choquant ou pas?
Un pays n'envoie pas son chef d'État qui n'est pas représenté. Souvent, les gens s'imaginent que si le chef d'État n'y va pas, le pays fait la politique de la chaise.
Quand un président
C'est sûr que c'est un signal politique qui est évidemment adressé pour différentes raisons, soit parce que certains sont dans une situation électorale compliquée, le cas d'Olaf Scholz, d'autres ne veulent pas cautionner le régime autoritaire de Bakou, c'est le cas d'Emmanuel Macron, et puis aussi certains ne veulent pas trop engager leur pays, donc ne veulent pas trop assumer le fait que leur pays ne va pas revoir à la hausse sa contribution financière. Cela étant dit, je pense que c'est très important sur les COP de bien avoir en tête que c'est un processus itératif, c'est-à-dire que le changement climatique, nous allons devoir gouverner ce problème pendant toute la durée du siècle, et donc il faut bien des organes de gouvernance qui se réunissent à intervalles réguliers. Et quand on dit une énième COP, pour quoi faire? C'est comme si je vous demandais, mais Elisabeth, vous allez encore faire une émission demain, mais pourquoi faire? Vous n'aurez pas épuisé l'actualité. C'est la même logique, vous comprenez? Sur la question du retrait américain, bien entendu, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut désoccidentaliser et qu'aujourd'hui, de plus en plus, d'autres pays jouent un rôle très important dans la gouvernance. Le problème, c'est qu'au moment où on fait l'accord de Paris, on a le choix entre soit de faire un accord contraignant, avec des limites d'émissions contraignantes.
Ça, c'était en 2015.
C'était en 2015. Ce qui aurait impliqué un nombre limité de participants. Ou alors on choisit d'avoir un accord non contraignant sur les limites d'émissions, mais d'avoir un accord universel qui implique tout le monde. Et on va choisir cette deuxième option. Je ne dis pas qu'on a eu tort, c'était un choix qui pouvait se défendre. Mais le problème, c'est que si les États-Unis se retirent et si d'autres se retirent à leur suite, on a tout perdu. On n'a pas les limites contraignantes et on n'a plus non plus l'universalité.
Il y a quand même la question du pays hôte qui se pose. Hein. Tout de même, l'Azerbaïdjan n'est pas prête à renoncer à ses énergies fossiles. Écoutez son président Ilham Aliyev en ouverture donc, de cette COP, c'était hier.
To accuse us that we have oil is the same like to accuse us that we have more than 250 sunny days a year in Baku. It's a gift of the God. Every natural resource, whether it's oil, gas, wind, sun, gold, silver, copper, all that are natural resources. And countries should not be blamed for having them.
Martial Zebelinga, en même temps, c'est vrai que quand on entend ça, on comprend que la Papouasie-Nouvelle-Guinée boycotte la COP. Elle dit que c'est une perte de temps totale. C'est ça, c'est sûr que ça peut aller dans leur sens.
Alors, je ne sais pas si c'est pour cette raison en particulier, mais oui, il y a des questions qui se posent sur l'utilité des COP, c'est évident. D'abord, parce que
l'efficacité des pays
hautes, déjà, l'efficacité... Et disons, elle est discutable. C'est vrai que c'est un processus de long terme, c'est un processus itératif, etc. Du coup, il y a des difficultés à percevoir les effets immédiats de ces débats. Donc, on peut comprendre qu'il y ait des difficultés à adhérer à ces projets. Mais je crois que s'il y a aussi cette difficulté, bon, alors, l'environnement, c'est une question de très long terme. C'est une question qui est au-delà des cycles politiques, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des différences de perception dans le monde, et selon qu'on se situe à Paris, on ne regarde pas l'Azerbaïdjan de la même façon que si on était en Nouvelle-Calédonie, au Cameroun ou ailleurs. Je prends un exemple très simple. Pour l'ensemble des pays colonisés, la pollution, la déforestation, etc., ça vient avec la colonisation, je veux dire massivement. Et donc, nous n'avons pas le même regard par rapport à, par exemple, à la France. On ne peut pas avoir le même regard que la France a vis-à-vis d'un autre pays, parce que pour nous, historiquement, que ce soit la France, l'Angleterre, etc., ce sont les premiers pollueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut comprendre aussi cette diversité de points de vue, l'intégrer et faire avec.
Vous l'intégrez, vous la comprenez, vous souscrivez à ce décentrage du regard.
C'est tout l'enjeu des COP aussi, c'est d'essayer de comprendre que le changement climatique, ça veut dire des choses très, très différentes selon les pays, et que la transition climatique, ça veut aussi dire des choses très, très différentes. Pour certains pays, c'est un enjeu de développement, pour d'autres, c'est un enjeu de sécurité, pour certains, c'est carrément un enjeu de survie. Et donc, toute la difficulté, c'est d'essayer d'accorder l'ensemble de ces pays sur une sorte de vision commune, sur une sorte de trajectoire commune. On était plus ou moins pas mal arrivés l'an dernier à Dubaï, avec cet horizon commun de neutralité carbone à l'horizon 2050.
Quel enjeu pour la Chine, justement? Est-ce que c'est un enjeu de soft power, économique, politique? On va voir ça avec vous, Anna, puisque la Chine se pose en élève modèle de la transition verte.
Oui, la Chine, c'est le premier pollueur mondial, et en même temps, c'est aussi le pays qui produit deux fois plus d'énergie verte que tous les autres pays réunis. Elle compte donc bien capitaliser sur ce bilan positif pendant la COP et montrer sa bonne volonté en matière d'action climatique. La semaine dernière, par exemple, le gouvernement chinois a annoncé une nouvelle loi sur l'énergie pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2060, mais sans donner plus de détails. Cet été, c'était Bloomberg qui démontrait que les émissions de gaz à effet de serre chinoises avait déjà diminué en 2023 grâce au recul du secteur de la construction qui utilise beaucoup de pétrole et de charbon, mais surtout grâce à la promotion des véhicules électriques et au développement massif donc des énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien. À titre d'exemple, rien qu'en 2023, Pékin a investi 600 milliards de dollars dans les énergies propres, c'est deux fois plus que l'Europe. Et enfin, une étude finlandaise montre que la Chine n'a délivré aucun nouveau permis pour des projets d'aciérie qui fonctionnent au charbon. Et cela, c'était au cours du premier semestre 2024. Mais, car il y a un mais, paradoxalement, l'année dernière, l'État chinois a autorisé l'ouverture d'une centaine de nouvelles centrales à charbon. Lola Vallejo, est-ce que la Chine peut être la locomotive qui peut entraîner les autres pays à aller vers les énergies renouvelables ?
Alors la Chine, c'est le pays des paradoxes, et les chiffres que vous avez donnés le montrent bien. Je pense que ça montre qu'effectivement, la Chine n'est pas prête à faire de compromis sur sa sécurité énergétique. Il y a beaucoup de centrales à charbon. Il faut rappeler que ces centrales, elles ne fonctionnent pas du tout la majeure partie du temps. Elles ont un facteur de capacité, comme on dit, très faible. La Chine, elle est certainement le pays qui a fait le plus gros pari industriel et technologique et qui compte sur le fait que l'ensemble de la communauté internationale va essayer de respecter l'accord de Paris et qu'elle va avoir un marché gigantesque pour déployer toutes ces technologies. Aujourd'hui, la moitié des véhicules neufs vendus en Chine, ce sont des véhicules électriques. Donc, encore une fois, pays de paradoxe, mais ce qui est sûr, c'est que ces efforts-là, ils vont nous permettre d'éviter énormément de demandes de pétrole, de gaz, de charbon. Mmh. Maintenant, il faut que la Chine continue d'accélérer, atteigne un pic de ses émissions et réduise rapidement.
François Gemène, est-ce que la Chine pourrait devenir, par exemple, un pays contributeur, vu qu'elle pollue? Est-ce qu'elle pourrait être amenée à payer plus, au même titre que les États-Unis ou l'Union européenne?
Bien sûr, ça va être un des enjeux de discussion, et sans doute une des pierres d'achoppement de ces COP29. Lorsqu'on a fait la division entre pays industriels et pays en développement. En 1992, la Chine était encore un pays en développement. Rendez-vous compte qu'on n'a jamais revu cette liste depuis. Donc ça fait 32 ans qu'on est bloqué à 37 pays industrialisés, donc 37 pays contributeurs. Et le gros enjeu, c'est évidemment de voir si on va pouvoir revoir cette liste et donc faire contribuer d'autres pays. La Chine, mais aussi les pays du Golfe, Singapour, la Malaisie, certains de ces pays qui sont aujourd'hui parmi les plus riches du monde, mais qui sont toujours officiellement considérés comme des pays en développement.
D'autant qu'il y a 1 000 milliards de dollars qui sont réclamés par les pays en développement et donc les États-Unis et l'Union européenne ne peuvent pas être...
Bien sûr, et c'est absolument fondamental qu'on débloque cet argent, à la fois pour aider les pays du Sud à faire face aux impacts du changement climatique, mais aussi pour qu'ils puissent faire aussi leur transition. Mm-hmm. Il est certain que quand on regarde aujourd'hui les chiffres, c'est affolant. Il y a davantage de panneaux solaires installés en Belgique que sur toute la totalité du continent africain. Alors certes, il y a beaucoup de panneaux solaires en Belgique, mais c'est que 30 000 km² et c'est loin d'être le pays le plus ensoleillé du monde. Donc on voit le gouffre.
Martial Zebeninga, est-ce que ça, ces 1 000 milliards, c'est vraiment indispensable? Est-ce que les entreprises privées, elles ne sont pas plus efficaces en Afrique, par exemple, pour cette transition écologique? C'est 1 000 milliards par an jusqu'en 2050. Ça nous paraît énorme, même si c'est que 1% du PIB mondial. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'arriver à la transition écologique dans ces pays que vous connaissez bien?
Vous posez beaucoup de questions en une seule.
Et vous n'avez pas
c'est énorme. Voilà. Alors, je vais quand même revenir sur un point. Vous savez, quand on parle de... Parce qu'il y a une vraie question de confiance au cœur de ce débat. Quand vous parlez d'aide, aider les pays en développement ne se considèrent pas comme étant des pays en situation d'être aidés. Ils raisonnent en termes de réparation, c'est-à-dire qu'on a été pollué, il y a un pollueur, il faut quand même le dire, ce sont les industries, d'abord européennes aujourd'hui, occidentales et asiatiques, chinoises aujourd'hui, qui sont pollueurs. Et donc, quand on parle d'aide, vous voyez, il y a une espèce de... une forme d'escroquerie intellectuelle. Passez-moi le terme
aussi.
Non, attendez, vous permettez. Quand on dit 1 000 milliards, vous savez, dans les 1 000 milliards, est-ce que c'est des dons? Est-ce que c'est des prêts? De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que ce sont des réparations? Dans les faits, c'est surtout des prêts. Et les prêts, qu'est-ce qu'ils entraînent? Avec des taux d'intérêt, ils entraînent une augmentation de l'endettement. Vous voyez, donc on a l'impression d'être dans une négociation, dans un jeu de dupes. Et les Africains, finalement, n'y croient pas tant que ça. Alors, on participe pour ne pas faire la politique de la chaise vide, mais nous pensons fondamentalement, quand on voit les discours, que la porte du salut ne sera pas véritablement dans ces négociations-là et qu'il y a quelque chose d'autre à inventer. Bon.
Quoi? Ce sera l'objet de notre prochain débat. Voilà. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré notre question du jour autour de la COP29.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.